Aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du mercredi 4 avril 2018. À la une ce soir, Cameroun, les autorités affirment avoir libéré 12 touristes italiens et suisses sans préciser la date de leur enlèvement ni le lieu où ils ont été libérés. Les présidents turcs, russes et iraniens s'engagent en vue d'un cessez-le-feu durable en Syrie. Le patron du HCR en République démocratique du Congo, Kinshasa, accuse les ONG et l'ONU d'exagérer les chiffres sur la crise humanitaire. Et puis, 4 avril 2018, cela fait 50 ans depuis l'assassinat de Martin Luther King. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Cameroun, un communiqué du ministre de la Communication, Issa Chibroma Bakary, annonce la libération par l'armée de 12 touristes italiens et suisses enlevés à une date indéterminée en zone anglophone. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
7 Suisses et 5 Italiens qui ont été libérés se trouvaient avec une organisation appelée African Adventure Group, d'après le communiqué d'Issa Chibroma Bakary, ministre de la Communication. Le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'ils avaient été enlevés par des séparatistes alors qu'ils se trouvaient sur le site de Twin Lakes, deux lacs situés dans le secteur de Koupé-Manenguba. Aucune indication n'a été donnée sur la date de leur enlèvement et les conditions de libération. Sho Ayaba, chef de l'Ambazonia Defense Forces, un des groupes armés séparatistes, a démenti être l'auteur de ce kidnapping. M. Chiroma a ajouté que 6 conseillers municipaux ont aussi été libérés lors d'une opération militaire dans la région du Nord-Ouest. Il a aussi laissé entendre que dans de récents accrochages, plusieurs dizaines de séparatistes ont été abattus par l'armée qui a saisi des stocks d'armes, de munitions et de la drogue.
Filippo Grandi, le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies, est en République démocratique du Congo pour une visite officielle. Un déplacement sensible car les autorités congolaises accusent l'ONU et les ONG d'exagérer la crise humanitaire dans le pays. Claire Morin-Gigour.
Arrivé hier à Kinshasa, Filippo Grandi débute son séjour en RDC par des rendez-vous avec les autorités du pays et des rencontres avec la communauté humanitaire et diplomatique. Le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies se rendra ensuite dans plusieurs localités dans l'est du pays pour rencontrer des réfugiés et des déplacés et pour évaluer la situation humanitaire. Le gouvernement congolais a annoncé son refus de participer à une conférence coprésidée par l'ONU et l'Union européenne pour lever 1,7 milliard de dollars le 13 avril à Genève. Léonard Chez Okitundu, ministre des Affaires étrangères, a affirmé que, malgré les difficultés budgétaires, son pays allait accorder 100 millions de dollars pour la « détresse humanitaire », selon ses termes. 10 millions de dollars devraient être décaissés en faveur des réfugiés congolais de retour au pays ou des déplacés internes.
Burundi, le Conseil de sécurité de l'ONU exhorte le pouvoir à dialoguer avec l'opposition dans la perspective des élections envisagées en 2020. Dans une déclaration adoptée par le Conseil de sécurité, il se dit profondément préoccupé face à la situation politique dans le pays, la lenteur des progrès du dialogue interburundais dirigé par la communauté d'Afrique de l'Est et l'absence d'engagement du gouvernement à cet égard. Les élections envisagées en 2020 doivent être libres, justes, transparentes, pacifique, pleinement inclusive, avec la participation de toutes les parties politiques et assurer une pleine participation des femmes au processus, affirment les 15 membres du Conseil de sécurité. Guinée, un tribunal de Conakry a requis 2 ans de prison contre l'opposant Ibrahima Sori Camara. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril. Membre du principal parti d'opposition, l'UFDG, il est poursuivi pour outrage, injure et diffamation à l'encontre du président Alpha Condé. Un djihadiste malien a été présenté aujourd'hui au juge de la Cour pénale internationale. Alassane Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud devra répondre de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Tombouctou en 2012 et 2013. Il est accusé d'avoir participé à la destruction de mausolées et d'être responsable de viols et d'esclavage sexuel commis dans le contexte de mariages forcés. Des accusations de torture pèsent également contre lui. Lors de sa première apparition devant la CPI, il s'est plaint d'avoir été placé dans une pièce avec une caméra de surveillance, estimant que ses conditions de détention nuisent à sa dignité et au respect de sa vie privée. Une filière d'immigration clandestine depuis la Côte d'Ivoire a été démantelée dans le sud de la France. Au total, 5 jeunes qui se disaient âgés de 15 à 17 ans, mais auraient en réalité 18 à 20 ans, ont été présentés à un juge pour escroquerie et fraude sociale. Soudan, le procureur de la Sûreté de l'État accuse l'ancien Premier ministre et principal dirigeant de l'opposition de collaboration avec les rebelles pour renverser le régime du président Omar el-Béchir, selon un média soudanais. Sadek al-Mahdi, dernier Premier ministre démocratiquement élu au Soudan, avait été chassé par le coup d'État fomenté en 89 par le général el-Béchir, l'actuel président. Malgré la révolution, la torture continue en Tunisie. C'est ce qu'affirme l'Organisation contre la torture en Tunisie. L'ONG dénonce le recours persistant à des méthodes très dures, notamment dans des postes de police. 6 ans après la fin du régime policier de Ben Ali, cette ONG a été saisie de 80 cas de violations physiques et de torture, selon son rapport annuel. Libye, la cour d'appel de Tripoli a acquitté Saadi Kadhafi, troisième fils de l'ancien dictateur Muammar Kadhafi, du meurtre en 2005 d'un entraîneur de football.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les présidents russes, iraniens et turcs se sont engagés lors d'un sommet à Ankara à coopérer pour un cessez-le-feu durable en Syrie. Nathalie Barge.
Dans un communiqué final, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Hassan Rouhani ont réaffirmé leur détermination à coopérer activement en Syrie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants. Ils ont en outre souligné leur volonté d'accélérer leurs efforts pour assurer le calme sur le terrain, protéger les civils et faciliter un accès rapide de l'aide humanitaire. Pendant ce temps, les États-Unis sèment le doute sur un éventuel retrait de leurs troupes. Le chef du renseignement américain, Dan Coats, a annoncé ce mercredi que l'administration de Donald Trump avait pris une décision sur l'avenir de la présence militaire américaine en Syrie et l'annoncerait bientôt. Monsieur Trump a exprimé à plusieurs reprises son souhait de retrait rapide des quelques 2000 soldats américains déployés en Syrie pour lutter contre le groupe État islamique.
Et 10 Palestiniens accusés de préparer des attaques à la roquette contre des navires de la marine israélienne au large de la bande de Gaza ont été arrêtés, c'est ce qu'indiquent les autorités. 3 experts des droits de l'homme de l'ONU dénoncent la situation inhumaine des migrants dans le nord de la France. Ils logent dans des tentes, sans toilette, et se lavent dans des eaux polluées d'une rivière ou d'un lac, ont-ils souligné, estimant que des efforts ont été faits, mais qu'ils ne sont pas suffisants. Ils exhortent donc Paris à faire davantage pour leur fournir eau et abris d'urgence. Par ailleurs, la France a indiqué à la Commission européenne qu'elle allait prolonger ses contrôles aux frontières jusqu'à fin octobre en raison de la persistance de la menace terroriste. C'est ce que rapporte l'AFP, citant un porte-parole de la Commission. La Chine a sorti l'artillerie lourde ce mercredi dans son conflit commercial avec Washington, annonçant des droits de douane sur les importations américaines de nombreux produits, dont le soja, l'automobile et l'aéronautique. Des produits qui pèsent lourd dans la balance. John Lindon.
Quelques heures après la publication mardi par l'administration Trump d'une liste provisoire de produits importés susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane, Pékin a répliqué avec sa propre liste visant des importations du même montant annuel, 50 milliards de dollars. Il s'agit d'une nette escalade vers une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le président américain Donald Trump a dénoncé dans la foulée sur Twitter l'immobilisme supposé de ses prédécesseurs face au déficit commercial avec Pékin et au vol de propriété intellectuelle par la Chine. Pas moins de 106 familles de produits américains devraient être frappées de droits de douane de 25%, notamment les secteurs automobiles, produits chimiques, whisky, cigarettes, soja et avions de moins de 45 tonnes, ce qui exclut a priori le géant Boeing des mesures de rétorsion chinoises. Le ministère chinois du commerce a précisé que la date de l'entrée en vigueur de ces mesures serait annoncée ultérieurement. Au total, le montant cumulé des produits visés par les deux pays atteint désormais les 100 milliards de dollars,
soit environ 17% des 580 milliards d'échanges commerciaux bilatéraux en 2017.
Ici aux États-Unis, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a accepté de témoigner sur le scandale de l'exploitation des données personnelles de ses utilisateurs par la société Cambridge Analytica lors d'une audition à la Chambre des représentants américaine. Ce sera le 11 avril. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur l'actualité économique. C'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Millennium Challenge Corporation va injecter 35 millions de dollars au Togo pour stimuler la croissance et réduire la pauvreté dans le pays. Ce financement sera utilisé dans deux secteurs clés de l'économie togolaise, le foncier et l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Le programme permettra d'améliorer l'accès des populations à des services de qualité à moindre coût, encourager les investissements privés pour un développement plus inclusif et favoriser la formation de l'accès à la terre. Le désert gagne du terrain dans le Sahara. Une étude de l'Université du Maryland affirmait qu'il a avancé de 10% sur les terres au nord et au sud. La baisse de la pluviométrie et l'impact des activités humaines sur les changements climatiques expliquent cette extension. Les retombées risquent d'être désastreuses pour le Sahel. L'élevage et l'agriculture constituent les principaux moyens de subsistance pour les populations locales. Le bassin du lac Tchad est particulièrement vulnérable. La Chine a sorti l'artillerie lourde dans son bras de fer commercial avec Washington. Pékin a annoncé des droits de douane sur les importations américaines, notamment le soja, l'automobile et l'aéronautique. Ces produits pèsent lourd dans la balance. Pas moins de 106 familles de produits américains devraient être frappées de droits de douane de 25%. Mardi, l'administration Trump avait publié une liste provisoire de produits chinois susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane annuels de 50 milliards de dollars. Washington vise les secteurs de l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication ou encore la robotique.
Et on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Suite des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir.
Eh oui, l'attaquant Lionel Messi et le milieu défensif Sergio Busquets se sont entraînés normalement hier. Ils figurent donc dans le groupe pour recevoir ce soir à partir de 19h45 temps universel l'AS Rome en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux derniers clubs anglais encore en lice en quart de finale, Liverpool et Manchester City s'affrontent dans l'autre rencontre de la soirée avec notamment une opposition de style entre les deux entraîneurs, Jürgen Klopp et Pep Guardiola.
Hier, Ronaldo a encore prouvé qu'il était galactique.
Ah oui, le Real Madrid, double tenant du titre, a écœuré la Juventus Turin chez elle. 3-0. Le Real qui se rapproche des demi-finales. Cristiano Ronaldo a signé un doublé, notamment une magnifique bicyclette en seconde période. Marcelo avait également inscrit son but. Le match retour est prévu en Espagne le 11 avril prochain dans l'autre quart de finale. Le Bayern Munich a fait parler son expérience pour étouffer le FC Séville. Une victoire 2-1 en Andalousie grâce notamment à Franck Ribéry. Séville avait pourtant ouvert le score. Au passage, c'est la 12e victoire consécutive pour l'entraîneur des Bavarois, Jupp Heynckes. C'est un record absolu pour un entraîneur en Ligue des Champions.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain, Nicolas.
Du côté de LeBron James, tout va bien. 27 points pour Cleveland qui bat Toronto 112-106, Philadelphie en promenade face à Brooklyn 121-95. Miami de son côté souffle, 9e la saison passée. Le Heat a validé son ticket pour les playoffs en battant Atlanta 101-98. San Antonio a gâché un joker chez les Los Angeles Clippers, une défaite 110-113. Utah l'a emporté face aux Lakers 117-110. Et puis James Harden, très grand, et Houston qui ont battu Washington 120-104. Enfin, les Warriors de Golden State grâce à Kevin Durant. Victoire face à Oklahoma City 111-107.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Cap sur le Tchad, au lendemain du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles, qui n'a pas fait l'unanimité auprès des Tchadiens, le président Idriss Déby Itno multiplie les consultations avec les forces vives de la nation. Après les membres du bureau politique de son parti et des partis politiques alliés, il a rencontré ce mardi les organisations de la société civile. Notre correspondant André Kodmajingar fait le point de N'Djamena.
Une rencontre d'échange transformée en une communication axée sur les résolutions et recommandations issues du dit forum. Le président Déby demande à tous les Tchadiens de l'aider à restaurer l'autorité de l'État et à rétablir la justice sociale à tous. Pour lui, les résolutions et les recommandations seront mises en œuvre avant la fin de l'année 2018, car elles ouvrent une nouvelle page qui verra la naissance de la 4e République après la promulgation de la nouvelle Constitution. Pour le coordonnateur de l'association Tchad Non-Violence Toydom, Marcelin Nodindo, le président Déby a occulté le vrai problème qui mine la justice sociale.
C'est la question de la DIA. Aujourd'hui, les Tchadiens ont des prix différents. Quand un proche du chef de l'État est tué, il paye différemment. Quand c'est une telle région, on paye différemment. On a bien voulu lui faire rappeler, malheureusement, le protocole d'État n'a désigné que ceux qui sont acquis à la cause du régime et nous en sommes vraiment déçus.
Pour le président de la gouvernance associative de l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, Banadi Boguel-Purus, il n'y a pas du nouveau dans la déclaration du président Déby.
J'aurais voulu que ça soit vraiment des engagements plus concrets. Mais dans l'analyse de ce qui apparaît, c'est qu'il va avoir une concentration de pouvoir et le chef de l'État l'a dit clairement qu'il va s'assumer et nous nous posons la question à quelle source nous nous attendons. Mais déjà, cette déclaration m'inquiète.
La présidente de l'Association des femmes juristes du Tchad, Mekombe Thérèse, se dit pessimiste quant à l'application de ces résolutions.
Comment ces différentes résolutions et recommandations seront intégrées? Parce que c'est une nouvelle constitution. Et quel est le processus d'adoption de cette nouvelle constitution? Je m'interroge de la manière dont cette 4e République-là sera construite et la manière dont elle sera gérée.
Le front de l'opposition nouvelle pour le changement et l'alternance promet faire une contre-campagne du référendum pouvant aboutir à une nouvelle constitution. Ahmad Mahamat Alabo en est le coordonnateur.
Cette constitution doit être soumise au peuple tchadien. On va sillonner le pays pour dire au peuple tchadien ne votez pas cette constitution qui consacre tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, fait de lui un monarque absolu, dictateur. On appellera le peuple tchadien à dire non.
Trois autres regroupements des partis politiques de l'opposition rejettent dans un communiqué conjoint les résolutions de ce forum qui, selon eux, portent des germes d'une guerre civile. Il condamne le comportement de la communauté internationale qui reste indifférente aux souffrances des populations tchadiennes en soutenant le président Déby pour service rendu à travers la guerre par procuration qu'il livre à sa place dans le Sahel. André Kodmajingar N'Djamena, VO Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la vie et l'héritage de Winnie Mandela, décédée lundi à l'âge de 81 ans. Comment a-t-elle contribué à la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud? Quel rôle a-t-elle joué en tant que militante de l'ANC durant les 27 années de prison de son époux Nelson Mandela, l'icône de la nation arc-en-ciel? L'image de celle que le peuple sud-africain appelait affectueusement Winnie a-t-elle été écornée par des dérapages politiques et des affaires de corruption? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
La session criminelle s'est ouverte à Brazzaville avec une centaine d'affaires. Mais rien sur les gros dossiers politiques, notamment le procès de Jean-Marie-Michel Mokoko et André Okombi Salissa, deux anciens candidats à la présidentielle de 2016. Sur place, Ngolan Goussou.
La session criminelle s'est ouverte à Brazzaville avec une centaine d'affaires, mais rien sur les gros dossiers politiques, notamment les procès de Jean-Marie-Michel Mokoko et André Okombi Salissa, deux anciens candidats à la présidentielle de 2016. Encore moins sur le pasteur Ntomi, chef de la ministre Ninja dans le pool et sur lequel pèse toujours un mandat d'arrêt et la charge d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Clément Mirassa a milité aux côtés du général Mokoko.
Nous avons suivi la cassette de Tony Moudilou qui dit qu'en réalité il n'est pas arrêté pour cette affaire de coup d'État que nous avons découverte après qu'il ait annoncé sa candidature, qu'il y aurait d'autres affaires. Il s'agirait peut-être de ce que l'on appelle communément atteinte à la sûreté de l'État, puisque les Congolais découvrent que le gros motif, le gros crime maintenant, c'est celui-là. Alors qu'il y a des situations de vol, de crimes, de scandales économiques qui ne préoccupent nullement. Donc nous pensons que sur cette question, il faut être transparent. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où on met en exergue non pas la force du droit, mais le droit de la force. Et il faut que ça cesse.
Maître Yvan Eric Ibouanga, avocat dans les deux affaires politiques, dit ne pas être surpris par l'absence de ces dossiers.
Ces dossiers, d'un point de vue juridique, sont totalement vides. Il n'y a pas un seul dossier qui soit en l'état d'être présenté devant la session criminelle. Il y a plus d'une année que le général Jean-Marie Michel Moukoko, l'ancien ministre et l'ancien député de l'ICANA, M. André Okombi Salissa, sont en détention préventive en violation de la loi. Ce seraient les premières affaires à être instruites, puisque ce sont les dossiers qui défraient la chronique.
Pour Christian Bouanga, juriste proche du gouvernement, la justice fait correctement son travail et le politique ne devrait pas influencer le pouvoir judiciaire.
L'exécutif a émis un vœu politique, puisqu'il monte de la population une certaine grogne. Pourquoi ces personnes ne sont pas jugées? Alors, pour résoudre de manière définitive ces interrogations, le chef de l'État a émis le vœu que, à l'occasion de la prononciation criminelle, tout au moins en cette période-là, ces questions soient examinées. Mais ces sessions criminelles n'ont pas été préparées à partir des incarcérations d'acteurs politiques, n'est-ce pas? Donc, il s'agit aujourd'hui pour le magistrat de voir si les dossiers en instruction, en rapport avec certains acteurs politiques en privation de liberté, sont à maturité.
Plusieurs magistrats estiment cependant que ces deux dossiers politiques pourraient intervenir avant la fin de la session criminelle. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce mercredi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Madjidi est la première femme à entraîner un club de foot masculin au Soudan et dans le monde arabe. Lors du symposium de Marrakech sur le foot féminin, la CAF a recommandé l'augmentation du nombre de femmes entraîneurs. Pourquoi si peu de femmes entraînent des clubs de sport masculin et féminin alors que le nombre de licenciés explose dans le monde? Selon vous, les clubs masculins peuvent-ils avoir des entraîneurs féminins? Avez-vous des exemples à citer? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Escalade dans le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Quelques heures après la publication d'une liste provisoire de produits chinois susceptibles d'être soumis à de nouvelles taxes, Pékin a répliqué en visant des importations américaines d'une valeur de 50 milliards annuels. Peut-on déjà parler de guerre commerciale? C'est la question qu'Abdourahmane Dia a posée à Bruno Larue, spécialiste du commerce international à l'Université Laval du Québec.
On peut déjà parler de guerre commerciale parce que c'est des mesures de représailles. Donc, c'est des réponses finalement là, aux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. Donc, ils avaient menacé de mettre ces mesures-là si les États-Unis persistaient à vouloir imposer là, des tarifs sur les exportations chinoises d'acier et d'aluminium. Donc, aujourd'hui, l'annonce a été faite. Donc, c'est effectivement une guerre commerciale qui vient d'être amorcée.
Les marchés, notamment la bourse de New York, ont chuté ce matin avec, par exemple, Boeing, dont la Chine est le deuxième marché. Quels sont les secteurs qui pourraient être affectés par cette guerre commerciale?
Évidemment, il va y avoir des pertes commerciales pour les deux pays. Dans ce genre de guerre commerciale-là, il n'y a personne qui ressort gagnant. Donc, parce que le président Trump a dit qu'on peut faire des guerres commerciales facilement et les gagner facilement, c'est faux. Surtout pas contre des partenaires comme la Chine. Si les États-Unis ripostaient ces mesures-là, il pourrait y avoir là, une spirale et puis effectivement, il y aurait un très, très grand nombre d'industries qui seraient touchées. Habituellement, lorsqu'il y a des mesures de représailles, le but, c'est de faire le plus mal possible politiquement. Donc, on vise les secteurs où il y a des industries où ils sont localisés qui représentent un certain enjeu politique. Le président Trump a des appuis là, dans le Midwest, donc c'est pas surprenant que les Chinois, finalement, aient décidé d'imposer des mesures sur les exportations américaines de soya.
Donc, quand le président Trump dit qu'une guerre commerciale est très facile à gagner, ce n'est pas vraiment évident.
C'est pas vrai du tout. Donc, habituellement, dans des situations comme celle-là, des experts de chacun des pays vont discuter pour essayer de s'entendre pour éviter qu'il y ait des pertes trop lourdes.
Mais en même temps, le président Trump explique que le déficit commercial avec la Chine, qui est de plus de 500 milliards de dollars, est trop lourd et qu'il faut faire quelque chose. N'a-t-il pas raison quelque part?
En fait, c'est à lui de convaincre les consommateurs américains de réduire leurs achats de produits chinois. Puis honnêtement, je doute que ça va arriver. Les consommateurs, en fait, bénéficient beaucoup du fait que les produits chinois soient pas taxés. Donc, c'est des gains, en fait, pour les États-Unis. Donc, qu'il y ait une balance commerciale négative avec la Chine, ça reflète finalement les préférences des consommateurs américains.
Voilà, c'était Bruno Larue de l'Université Laval du Québec. Ce 4 avril marque les 50 ans de l'assassinat du référent Martin Luther King Jr. À travers sa méthode de contestation non violente, il a fait avancer de façon drastique le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Retour sur le combat d'un homme qui a marqué l'histoire de son pays, mais aussi le XXe siècle, au même titre que Nelson Mandela et Mahatma Gandhi. Dili Dico.
Ces dernières heures, il les a vécues comme il a vécu sa vie, en se battant pour les droits civiques des Américains. Assassiné au lendemain d'une rencontre avec des éboueurs afro-américains à Memphis, dans le Tennessee, Martin Luther King Jr. était venu soutenir ses travailleurs en grève afin qu'ils obtiennent un traitement similaire à celui des éboueurs blancs. Il croyait fermement au processus légal, à l'importance d'adopter de nouvelles législations, mais il lui semblait indispensable de faire usage du pouvoir de l'union, du rassemblement, à l'image de la marche de Washington en 1963, lorsqu'il a prononcé ce fameux discours.
Je rêve qu'un jour notre nation se lèvera.
Bien avant sa mort, Martin Luther King Jr. était considéré par ses contemporains comme un symbole de justice sociale, de paix et d'entente nationale. Mais avant cette réconciliation, de grandes batailles ont dû être gagnées. Parmi elles, celle de Montgomery, en Alabama. Elle demandait du courage et de la persévérance, car la confrontation était inévitable. Le député John Lewis nous raconte.
They came toward us, beating us with nightsticks, trampling us with horses.
Ils sont venus vers nous, nous ont battus avec des matraques, piétinés avec leurs chevaux, aspergés de gaz lacrymogène. J'ai été matraqué à la tête par un policier.
I thought I was going to die.
Quelques jours après la répression féroce de cette bataille pour le droit de vote des Noirs dans les États du Sud, la justice avait autorisé Martin Luther King Jr. à marcher de Selma à Montgomery, accompagné de milliers de manifestants.
We must let the world know.
Nous devons montrer au monde qu'il est nécessaire de protester contre ce monstre à trois têtes. La discrimination face au droit de vote, la négation de ce problème et la répression policière.
Un an plus tard, en 1964, le président Lyndon Johnson signait le Civil Rights Act. Et en 1965, le Voting Rights Act devenait une loi.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console d'Anne Crafton, Morgane Guiriac à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24. Au revoir.
Afrique.